Avec le premier journal de ce lundi 19 août 2019, Sébastien Krebs.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour à tous.
À la une ce matin.
Vladimir Poutine attendu à Brégançon aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron. Alors qu'à Biarritz, les mesures de sécurisation du prochain G7 commencent déjà à transformer la ville encore retranchée. Le navire Open Arms refuse de traverser la Méditerranée pour aller accoster en Espagne. La situation humanitaire des 107 migrants à bord est trop critique selon l'ONG. Dans ce journal également, le chantier de Notre-Dame qui reprend aujourd'hui avec de nouvelles mesures face à la contamination au plomb. Et puis le défi des jeunes des quartiers pour nettoyer leur cité qui prend de l'ampleur. Ma cité va briller à la fin de ce journal.
Europe 1.
À l'amorce d'une semaine qui s'annonce chargée sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron reçoit donc ce soir au fort de Brégançon son homologue russe Vladimir Poutine. Au menu des discussions, la situation en Ukraine, la guerre en Syrie et très certainement le prochain G7 qui s'ouvrira samedi à Biarritz. Un G7 auquel n'est plus conviée la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Et un G7, on vous en a beaucoup parlé, qui va transformer la station de la Côte Basque en un bunker ultra sécurisé pendant près d'une semaine, au grand dam des commerçants, mais aussi des touristes, comme l'a constaté sur place notre envoyée spéciale Claudia Bertram.
Tous le disent, ils vont perdre de l'argent. Certains l'acceptent, ils n'ont de toute façon pas le choix, affirme-t-il. Mais d'autres sont en colère, comme Françoise, qui tient une boutique de prêt-à-porter.
À partir de demain, les parkings vont être vidés et on va perdre, non 4 jours de travail, mais une semaine de travail. On est en pleine saison, c'est le mois le plus important de l'année. On a bien peur qu'on n'ait pas du tout de clients. Pour nous, ça va être des journées peut-être à zéro, quoi. Je pense que ça va être catastrophique.
Cette commerçante gardera sa boutique ouverte. D'autres ne savent pas vraiment et feront au jour le jour. Mais pour Quentin, qui tient un magasin de souvenirs face à l'océan, ça ne vaut pas la peine.
À partir de mercredi, tout le monde ferme. Salvini ne va pas venir acheter des cartes postales. Merkel ne mange pas de sandwich. Et je pense qu'ils ont autre chose à faire que d'aller s'acheter une glace, quoi. C'est vrai que ça fait de la pub pour Biarritz, mais bon, qu'est-ce qu'on va voir à la télé? On va voir des gens en costume noir avec des oreillettes, des mecs tirant des luttes sur les toits. Enfin, c'est... Moi, ça me fait pas rêver, quoi.
Philippe, lui, s'est fait une raison, mais comme beaucoup de commerçants, c'est l'incompréhension qui domine.
Ils ont fait ça au mois d'août, en pleine saison, quand il y a plus de monde. C'est ridicule. Ils auraient dû faire ça 15 jours plus tard, en septembre. Ça aurait été beaucoup mieux.
Et pour faire face au manque à gagner, certains commerçants pourront monter des dossiers de remboursement auprès de l'État. Biarritz, Claudia Bertram, Europe 1.
Également à la une ce matin, cette nouvelle crise autour du sort des migrants secourus en Méditerranée.
Ils sont 107 à bord du navire Open Arms depuis plus de 2 semaines maintenant. On pensait que l'accord en fin de semaine dernière entre 6 pays européens qui acceptent de les accueillir allait permettre leur prise en charge. Mais Blandine Hugonnet ce matin, force est de constater que la situation n'est toujours pas débloquée.
Bien pour l'instant, c'est toujours l'impasse. D'abord, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, refuse catégoriquement de laisser accoster le navire malgré un accord de 6 pays européens comme la France, qui s'est dit prête à accueillir 40 réfugiés, mais aussi parce que l'ONG de sauvetage en mer a refusé la proposition de l'Espagne qui lui ouvre ses ports. Pas question de naviguer encore pendant une semaine alors que la situation est intenable à bord, répond l'équipage. Hier, 5 rescapés se sont même jetés à l'eau pour rejoindre l'Italie à la nage. Si le pire devait arriver, l'Europe et Salvini en seront responsables. Il faut débarquer en urgence à Lampedusa, a lancé l'ONG dans un dernier espoir. Mais côté italien, peu de chance que ça se débloque depuis hier soir. Les gardes-côtes italiens sont prêts à escorter le navire Open Arms jusqu'en Espagne pour y débarquer les 107 migrants encore à bord.
Et puis Blandine, il reste un second navire en Méditerranée français, celui-là, et qui compte 356 migrants toujours à bord.
Oui, c'est l'Ocean Viking, un nouveau navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. À son bord, 356 personnes. Les premiers rescapés ont été sauvés il y a plus de 10 jours. Et depuis, eh bien, l'Ocean Viking attend qu'un pays sûr l'autorise à accoster. Pour l'heure, toujours aucune solution en vue. Il est évidemment très peu probable que l'Italie donne son accord. En attendant, le bateau fait du surplace dans les eaux internationales entre Malte et Lampedusa.
Merci beaucoup Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 en Italie. Les secours italiens, eux, doivent récupérer ce matin le corps sans vie de Simon Gauthier, localisé hier soir dans un ravin au sud du pays. On était sans nouvelles depuis 9 jours de ce Français de 27 ans disparu au cours d'une randonnée en solitaire dans cette zone très escarpée. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian fait part dans un communiqué de sa très grande tristesse.
Europe 1, 6h06, Sébastien Krebs.
À Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, une centaine de personnes a relogé après l'incendie du marché couvert ce
un
week-end.
Un très violent sinistre, effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, qui a entièrement ravagé le bâtiment. On ne sait pas encore si l'origine est criminelle ou accidentelle, mais les personnes évacuées n'ont pas été autorisées hier à regagner leur domicile. Sophie Echen, leur relogement pourrait prendre du temps.
Devant la façade noircie de l'immeuble, pendant tout l'après-midi, les agents de la protection civile accompagnent les habitants sinistrés chez eux afin qu'ils puissent récupérer quelques affaires. 2 ou 3 vêtements, le strict minimum. Mais pour combien de temps, ça, personne ne le sait. Mohamed vit ici depuis 40 ans.
On n'était pas resté tout longtemps dehors. Au départ, ils ont dit peut-être que vous allez rejoindre vos appartements vers 2h, 2h30 d'après-midi, même midi. Et après, on a eu la réponse comme quoi qu'on va pas dormir là.
Une centaine d'habitants passent la nuit dans un hôtel à proximité. Ça ne sera sans doute pas la seule, car pour l'heure, hors de question de revenir sur les lieux. Les pompiers ont récupéré les clés des appartements. Gérald vient de le quitter avec sa famille.
J'ai 4 enfants, donc il a fallu récupérer les affaires pour les petits, les grands, moi, ma femme. Et en plus, on partait en vacances dans 2 jours. On espère pouvoir retourner chez nous rapidement. Pour l'instant, on est vraiment dans le flou total.
La structure du bâtiment est fragilisée. Il va maintenant falloir attendre les expertises des architectes avant de savoir quand un éventuel retour sera possible.
Sophie Echène à Notre-Dame, après 3 semaines d'arrêt pour cause de pollution au plomb, le chantier de consolidation de la cathédrale doit reprendre ce matin. Les procédures de sécurité ont été renforcées avec notamment de nouvelles zones de décontamination. Mais en parallèle de ces travaux, une association de scientifiques aimerait pouvoir profiter de l'occasion pour faire des fouilles archéologiques dans le sous-sol du bâtiment, inaccessible en temps normal. Jeanne Bergaoui.
Pour la première fois depuis 800 ans, le culte religieux est à l'arrêt et les milliers de touristes ne fréquentent plus la cathédrale. C'est donc une occasion unique pour entamer des fouilles archéologiques, explique Olivier de Chalut, porte-parole de l'association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame.
Pourquoi pas en profiter pour ouvrir le sol et regarder ce qu'il y a sous la cathédrale, puisqu'on est dans une zone qui est habitée par l'homme depuis très 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 longtemps. Parce qu'il ne faut pas imaginer la cathédrale isolé, un édifice tout seul en milieu urbain. En réalité, une cathédrale au Moyen-Âge, elle fait partie d'un ensemble de bâtiments qu'on appelle un groupe épiscopal. Enfin, c'est vraiment tout un quartier. Et la configuration de ce quartier-là au XIIe siècle, on la connaît très très mal. On a certainement sous la cathédrale de la sculpture, de la mosaïque qui proviennent de bâtiments du XIIe siècle ou de bâtiments encore antérieurs qui sont là et qui sont des trésors potentiels.
Des trésors potentiellement inestimables, selon lui. Dans ces sous-sols, il y a forcément des choses à découvrir pour mieux comprendre l'histoire de Paris.
Jeanne Bergaoui avec Johanna Chabas pour Europe 1.
Alors que dans le Var, pendant ce temps, les vols de cloches dans les églises se multiplient.
Oui, on vous en parlait il y a un mois, un premier vol dans la commune de Ginas-Servi, eh bien ce sont désormais 4 villages qui sont touchés. Le dernier en date, Esparron de Palières, 350 habitants, dont la cloche a disparu mardi dernier. La mairie a porté plainte, explique l'adjoint au maire Christian Guinamo.
C'est la 4e chapelle donc, qui est touchée par votre cloche. Aurait-on affaire à un gang? On peut le supposer. On n'a pas de date très, 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 très précise, mais je dirais que de mémoire d'hommes, d'habitants et des anciens du village, c'est une cloche qui a plus de 300 ans, ça c'est sûr. Ce qui nous marque le plus, c'est le manque de respect auquel on est confronté de plus en plus de nos jours, de voir des objets de culte, des édifices qui sont saccagés quelquefois, vandalisés. Ce ne sont pas des cloches, je dirais, hyper, hyper importantes. Donc l'idée de rapine de ce type d'objet pour la récupération du métal, ça nous laisse un petit peu rêveur, quoi. C'est pour ça qu'on pencherait plutôt pour un côté objet d'art avec une valorisation quand même beaucoup plus importante que la vente du métal.
Christian Guinamo, adjoint au maire d'Esparron de Palières dans le Var, joint pour Europe 1 par Martin Lange.
On termine avec ce défi qui prend de l'ampleur pour la propreté dans les quartiers.
Et ils en avaient marre de voir leur cité jonchée de détritus. Plusieurs groupes de jeunes ont donc lancé un challenge, ça s'appelle Ma cité va briller. Le but, ramasser le plus de déchets possible pour nettoyer leur quartier. L'idée est partie du Val d'Oise, elle a essaimé jusqu'à Marseille. Mais ce week-end, c'était au tour des jeunes de Gonesse de se retrousser les manches, Alice Dangean.
Malgré l'horaire matinal et la pluie, 5 jeunes de l'association Nous Gonessiens s'équipent, gants, râteaux, sacs poubelles, ils ont tout prévu. Et c'est Étienne, 22 ans, qui s'improvise chef des opérations.
On va prendre une poubelle pour la poubelle jaune, une autre pour les papiers, journaux, magazines et cartons, une autre pour les verres et puis une autre pour les ordures ménagères.
Mégots de cigarettes, paille, éclats de verre, les déchets s'accumulent pour Mélissa, engagée depuis peu dans cette association citoyenne. L'objectif est double, nettoyer et sensibiliser.
sensibiliser.
Il y a des gens qui vont sortir le matin, prendre leurs journaux, acheter des baguettes et tout. Donc ce serait bien que les gens se rendent compte quoi, que si on vient, c'est pour que ça change.
Et ça fonctionne en voyant les jeunes. Augustine, qui habite le quartier, décide de mettre la main à la pâte.
Ça nous interpelle, hein, parce que jeter les déchets dans la rue, c'est pas une bonne chose.
Pour Arsène, qui a toujours vécu dans cette cité, les habitants n'ont pas d'autre choix que de se saisir du problème.
On est un petit peu dans notre petit coin et personne ne s'occupe de nous, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits jeunes qui s'occupent du quartier et qui soient propres, en fait.
En seulement 2 heures, ils ont accumulé 3 grands sacs remplis de déchets avec l'intention de remettre ça début septembre.
Reportage signé Élise Dangean. Un dernier mot de football. 2e journée de championnat et déjà une défaite pour le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est incliné 2-1 hier soir sur la pelouse de Rennes après avoir pourtant ouvert le score. Ce matin, c'est Lyon qui est en tête de la Ligue 1 après sa victoire 6-0 vendredi face à Angers.
Et c'était le journal de Théo Manval. On vous retrouve à 7h tout à l'heure. À tout à l'heure, Théo.